Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'un combat fratricide pour eux. Longtemps, l'après-midi était pour les journalistes d'Europe 1 le moment de la sieste. Mais un jour, notre grand patron Arnaud Lagardère a poussé la porte de la rédaction et a déclaré:
vous les gars, ce qui compte c'est juste rigoler et raconter des blagues, hein. Ça glousse comme une volée de pucelles dans le dortoir. Allez, au boulot!
Désormais, les journalistes de la rédaction sont en compétition chaque après-midi au service de votre culture G. Le meilleur d'entre eux sera élu chroniqueur du jour. À mes côtés, ma fidèle complice, mon inoxydable bras droit. Quand je l'ai recrutée, elle avait préféré jouer franc jeu en me disant:
je suis pas sûre d'être la meilleure pour...
Et c'est vrai qu'elle n'était pas la meilleure pour, mais je l'aime
bien.
Fort quand même. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu.
Vous savez que je vous aime.
Ouais, moi aussi.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou les écrans ce soir, d'ailleurs, ce qui est complètement idiot, puisque vu l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, j'espère que vous allez nous conseiller de regarder France 2.
Ben oui, évidemment. Et puis autre chose aussi, en plus.
D'abord, on accueille notre invité arbitre du jour, une artiste qui a plusieurs facettes. Vous aimiez la chanteuse, ce soir sur France 2, vous allez découvrir l'actrice. Bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour tout le monde.
État d'urgence, c'est le titre de ce téléfilm dans lequel vous incarnez une femme flic. Actrice, pour vous, c'est un coup d'essai, une parenthèse ou bien un tournant dans votre carrière? Là, vous y avez pris goût?
Ni l'un ni l'autre. Ça me renvoie à mon premier amour. Moi, j'ai commencé comme comédienne à l'âge de 12 ans. J'ai intégré ma première troupe. Et puis, j'ai fait que ça jusqu'à... Enfin, pas que ça, la musique à côté, mais qui était un à côté. Jusqu'à ce que la vie décide que la musique serait pas à la côté. J'ai jamais renoncé à ça non plus. C'est juste que des choses ont pris plus de place que d'autres à un moment donné. Mais j'espère que le jeu prendra de la place aussi.
On va parler justement d'état d'urgence et de ce très beau rôle. Vous avez le premier rôle dans ce téléfilm. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence cet après-midi. À ma gauche, compétiteur exceptionnel, actuellement deuxième du championnat européen avec 33 points. Anis Elmida est une machine à gagner. Une machine qui, cela dit, parfois se grippe, comme lundi face à Patrice Lecomte. Que s'est-il passé dans sa tête? Était-ce l'émotion de rencontrer en chair et en os le réalisateur de son film culte? Toujours est-il qu'au moment où nous avons évoqué la fameuse recette de la fougne, ce plat montagnard à base de restes de fromage servi à l'étalé, vous souvenez la scène du film, Anissé, enthousiaste, a voulu intervenir. Hélas, le nom précis du plat ne lui revenant pas, il s'est exclamé qu'il adorait...
la fougne.
Qui est un autre plat, Anissé, je vous expliquerai en antenne. Bonjour Anissé.
Très bon également, très bon également.
Enfin,
Anissé. Vous êtes Anissé, notre expert.
Oui,
calmez-vous Anissé, ne développons pas ce sujet. Vous êtes notre expert innovation, de quoi vous nous parlez aujourd'hui Anissé?
Moi je vais parler d'une boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir. On a trouvé une technique ultra simple pour avoir des petits garçons ou des petites filles. Vous allez voir, les conséquences sont extrêmement intéressantes.
Sur le plan éthique, ça pose des questions.
On va voir.
À ses côtés, Olivia Ruiz, elle est un peu votre double en moins glamour, puisqu'elle n'est pas la femme chocolat, mais la femme saucisson.
Le jour où elle abandonne son saucisson, le gars...
Une passion pour la charcuterie qui contraste avec son combat pour l'environnement. Anne Le Gall, vous êtes l'expert écologie d'Europe 1 et cet après-midi, vous nous annoncez du neuf sur le front du recyclage.
Voilà, je vais vous parler de recyclage originaux qui fleurissent en tout genre. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on lise un nouvel article sur du recyclage, de filets de pêche en basket, des mégots en doudoune, des cheveux en briques. Voilà, je vais vous parler de tout
des
ça.
Des cheveux en briques. Qu'on convertit
voilà.
En briques.
Exactement.
C'est-à-dire que votre maison est faite de cheveux finalement.
De briques de cheveux. Ça existe.
Merci Anne Le Gall. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage. C'est parti.
L'équipe est sauvage.
C'est donc la chanteuse et actrice Olivia Ruiz qui nous accompagne cet après-midi.
Je veux des interpellations, montrez que vous occupez le terrain.
Là, je devrais être avec mon gamin pour l'empêcher de quitter mon foyer. Vous voulez quoi exactement? Ruiner ma vie?
C'est quoi ton problème?
Écoutez, Rigatti, il y a des règles, vous les observez, c'est comme les ordres.
On est les piliers de la République, on est traités comme de la merde et on est mal payés.
État d'urgence, au pluriel, c'est ce soir sur France 2. Et c'est plus qu'un polar, c'est presque une radioscopie sur le mal-être policier aujourd'hui en France. Ça sera d'ailleurs suivi d'un débat avec Julien
Bugey. Absolument. Oui, il y a un côté presque film documentaire.
C'est très réaliste. Ça a été coécrit, je crois, par un ancien de la BAC.
Absolument, Nabil Drissi, et qui a vraiment amené le réalisme et qui était avec nous pendant tout le long du tournage, puisqu'il fait partie aussi des comédiens de cette petite équipe de la BAC. Donc c'était nécessaire, sa présence sur le tournage, pour justement avoir des clés. Moi, c'est vraiment un corps de métier qui m'est complètement étranger. Donc j'avais demandé à la prod une petite immersion d'une demi-journée à la BAC du 20e. C'était super. Puis j'ai déjeuné avec une jeune femme qui serait... qui pourrait être Justine.
Que vous incarnez à l'écran.
Voilà. Enfin, Cela dit, oui, elle a inspiré, elle fait partie des deux, trois filles qui ont inspiré le scénario. Et c'était un peu épatant. Si vous aviez vu, elle est toute jolie, toute apprêtée. Ouais. Et puis après, ces gars me disaient, si tu la voyais sur le terrain, mais elle est sacrément musclée. Donc voilà, c'était drôle de rentrer dans ce milieu-là par ce biais-là.
Alors, vous incarnez donc cette femme flic. Quel regard vous portez, vous, en tant que citoyenne, sur le mal-être policier ? J'ai lu que vous les compreniez mieux maintenant, mais que vous n'alliez pas non plus devenir leur porte-parole.
Effectivement, la post-adolescente anti-faf s'arrêtait spontanément plus sur les bavures, pour être vraiment sincère. Tout d'un coup, on n'excuse pas, mais on regarde les circonstances atténuantes différemment.
On comprend mieux ce que vivent les policiers au quotidien. État d'urgence est ce soir à 21h sur France 2. Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, plus qu'une simple émission, c'est pour elle aujourd'hui une véritable revanche sur la vie. Une occasion de remettre les compteurs à zéro avec notre invitée Olivia Ruiz, car on le sait peu, mais Anne Le Gall aussi avait postulé à la Star Academy.
Là-bas, j'adore Goldman.
Mais adoration non réciproque, hélas. Anne s'est rabattue sur le journalisme et le prosélytisme écologique. Aujourd'hui, elle nous dévoile les nouveautés en matière de recyclage.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. Olivia Ruiz est notre invitée à quelques heures de la diffusion ce soir sur France 2 d'État d'urgence, téléfilm coup de poing dans lequel elle incarne une femme flic qui en prend d'ailleurs pas mal des coups de poing. On y reviendra. Mm-hmm. Le tournage n'a pas été trop beau, hein, Olivia. Ça a été...
Non, c'était, c'était très amusant, mais c'était effectivement assez douloureux physiquement.
On
parfois.
Va y revenir. On continue de parler de ce téléfilm. Mais l'équipe est sauvage continue et la compétition, la vraie, commence. Avec une concurrente redoutable, sa fausse candeur et son arme, en réalité c'est une professionnelle prête à tout pour l'emporter, une pro avec laquelle nous formons un duo bien réglé. Elle balance une info, je m'étonne, info, étonnement, le résultat, une dramaturgie optimale pour sa chronique.
La biomasse des vers de terre, ça équivaut au poids de 2 à 6 vaches.
Mais non.
Et si. Il y a aussi 20 fois plus de poids de vers de terre dans le monde que de poids d'humains.
Mais non.
Et si. Un champ passe dans le tube digestif d'un vers de terre en 50 ans.
Mais non.
Et si.
Et si, Anne Le Gall. C'est énorme, c'est dingue. Anne Le Gall aujourd'hui, alors que personnellement je viens à peine de comprendre la différence entre le bac vert et le bac jaune, vous nous annoncez du nouveau dans le recyclage.
Mais si. Absolument. Depuis quelques mois, donc, vous avez vu fleurir dans la presse des tas d'articles sur des initiatives originales de recyclage. Alors, je vous propose un petit florilège. Premier constat, c'est le développement des baskets en matériaux recyclés. Alors là, toutes les marques s'y mettent. On a la basket. Alors, toutes les marques, je veux dire Adidas, Decathlon, des marques locales comme Corail à Marseille. Il y a des baskets qui se conçoivent à partir de plastique. Bon, ça, c'est pas très original, mais aussi de filets de pêche ou de déchets pêchés en Méditerranée.
Et il y a un petit label, là, par exemple, si on va dans une boutique Adidas ou Nike, puisqu'il faut citer plusieurs marques, Puma, est-ce qu'il y a un petit label ? Est-ce qu'on sait ?
Alors, en général, c'est bien écrit sur l'étiquette parce que c'est aussi un argument marketing.
Ah oui, mais j'ai
donc,
pas vu
c'est
encore,
pas toute
moi,
la
ça.
Gamme, mais il y a des articles, il y a une basket pour chaque marque qui va vanter ce côté écolo. Alors, première tendance, les baskets. Autre tendance, les textiles recyclés en isolant pour maison. Alors, on en parle de plus en plus. Et récemment, il y a une marque de lingerie et des marques d'articles de sport qui ont demandé à ce qu'on donne tous nos vieux jogging, nos vieux sous-vêtements pour les recycler en isolant pour les habitations. Et puis maintenant, les vieux jeans peuvent aussi être consignés et recyclés. Alors ça, c'est une initiative de la marque française 1083. Donc, votre vieux jean, quand il est usé ou trop petit, vous le renvoyez.
Mais il est recyclé en toute autre chose ou en jean ? Parce que en comme jean. Les jeans sont souvent vieillis, ils sont faussement vieillis, on pourrait facilement recycler des jeans à l'infini. En fait,
il va être broyé et on récupère les fibres pour faire un autre jean. Mais du coup, vous récupérez la consigne. C'est-à-dire qu'à l'achat, vous aurez laissé
d'accord.
20 euros
oui.
et vous récupérez les 20 euros de consigne pour le jean.
Plus étonnant, les mégots de cigarettes.
Voilà. Alors, mégots de cigarettes, on en faisait déjà des tables, du mobilier de jardin, des stylos, des cendriers. Parce qu'en fait, le filtre, vous savez qu'il y a un petit aspect ouateux, cotonneux. Mmh. En fait, c'est du plastique. Donc quand on le chauffe, ça peut donner des plaques de plastique dur. On peut en faire donc du matériel de jardin. Et désormais, on en fait aussi de la fibre pour les doudounes. Ça, c'est un procédé qui a été mis au point par un jeune ingénieur lillois. Donc ça, on va faire des doudounes en mégots de cigarettes. Il y a aussi du recyclage intéressant concernant les métaux. On fait des cadres de vélo à partir de capsules de café en aluminium. Ça, c'est pas très original. Plus original, ce sont les bijoux fabriqués à partir de l'or ou de l'argent issus des cartes mères des ordinateurs. Ça, c'est une initiative de la marque Dell. Et puis même nos cheveux se recyclent, figurez-vous.
Oui, enfin, pas ceux d'Anissé. ou alors, il a beaucoup donné. C'est-à-dire que c'est son côté écolo.
Il a peut-être donné à l'association des coiffeurs justes. Cette association a collecté depuis sa création, il y a 4 ans, 5 tonnes de cheveux. Alors, ça sert à quoi, les cheveux?
À faire des perruques, normalement. C'est vrai, non?
On peut donner pour faire des perruques. Vous avez raison. Et ça peut aussi servir à créer des boudins flottants qui vont filtrer la pollution en mer. Parce qu'en fait, la fibre capillaire a la capacité de retenir les produits un petit peu gras, donc ça va retenir les hydrocarbures et puis les déchets d'huile solaire. Et puis avec des cheveux, on peut aussi faire des briques. Quand on mélange à de l'argile, ça donne une brique. Ça, c'est un procédé.
Après, ça donne une brique qui n'est pas très solide quand même. C'est un peu l'histoire des trois petits cochons.
Si, c'est solide, absolument.
J'aime bien apporter un avis de spécialiste sur les innovations comme ça. C'est très sympathique tout ça, Anne, mais ces recyclages, même s'ils sont innovants, ça ne va pas suffire à dépolluer la planète. Quand même.
Alors, ça ne va pas suffire, c'est sûr. L'Agence européenne de l'environnement a encore tapé du poing sur la table il y a 2 jours en disant on ne recycle pas assez de déchets en Europe. Il y a seulement 17% des déchets plastiques qui sont recyclés chez nous au total. Donc, en réalité, pour bien faire, évidemment, il faudrait carrément changer de façon plus radicale nos modes de consommation et consommer moins, parce qu'il ne faut pas oublier que le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne produit pas. Il ne faut pas oublier non plus que tous les ans, le jour du dépassement, donc le jour à partir duquel on a épuisé les ressources de la planète, ce jour avance de plus en plus. C'était le 29 décembre dans les années 70. Cette année, c'était le 29 juillet. Donc, effectivement, il faudrait vraiment changer de mode de consommation. Mais bon, quand même, sans tomber dans l'optimisme béat, je salue ces initiatives, même locales, de recyclage, parce qu'elles ont plusieurs vertus. Elles mettent l'accent sur les solutions. Ça montre qu'on ne baisse pas les bras. Ça permet de mettre en place aussi des filières de recyclage, parce que pour faire des doudounes en mégots, ben, faut déjà les recycler. Ces mégots, les collecter. Et puis, donc on voit que même à petite échelle, eh bien, il y a des trésors dans nos poubelles, que ça peut même créer des business, qu'il y a un intérêt économique à recycler. Et d'ailleurs, même le gouvernement le dit, puisqu'il a tablé sur 300 000 emplois qui pourraient être créés dans l'économie circulaire dans notre pays.
Merci beaucoup, Anne Le Gall. Olivia Ruiz, est-ce que vous triez? Vous êtes sensible à ces questions-là?
Absolument, oui. Et depuis longtemps. Sensible au gaspillage, alors les jouets de mon fils sont en grande partie ceux des enfants de mes copines, trop vieux pour s'en servir. Mmh. Enfin, on essaye avec nos petits bras et nos petits moyens au quotidien. C'est super d'ailleurs, parce que dès la maternelle, ils commencent à éduquer les enfants, au moins à les sensibiliser à ce truc-là.
Et quand
agréablement surprise.
Pardon, quand on est un peu à la ramasse comme moi, j'ai l'impression que c'est les enfants qui nous éduquent aujourd'hui. Moi, c'est absolument. Mon fils qui, en revenant de l'école, me dit « Ah non, papa, là, il faut faire ci, il faut faire ça, attention, il faut trier, tout ça », alors que j'ai l'impression que c'est les enfants qui vont être les enfants vont être nos parents. Vous pouvez la noter, celle-ci. C'est... Il y a eu...
Ça va être bien freestyle, alors... je sens plans. Que l'avenir n'aurait pas été surprise.
Elle incarne une femme flic de choc en pleine descente aux enfers ce soir sur France 2 dans État d'urgence. Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est le cadre, le patron, le Don Corleone de l'équipée sauvage. Seul Ève Roger, chef du service société, est arrivé à le battre. Et pour y parvenir, comme elle le dit avec cette poésie qu'on lui connaît,
faut avoir des couilles grosses comme des potirons.
Oh. Anissa Mbida arrive et tout le monde tremble. Pour nous détendre un peu, je vous présente une parenthèse musicale avec une chanteuse qu'on aime assez ici, Olivia Ruiz, la femme chocolat sur Europe 1. La femme chocolat, c'était Olivia Ruiz sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. 2 heures également pour découvrir sous un autre angle une personnalité. Aujourd'hui, c'est Olivia Ruiz qui nous accompagne. Mais pas l'Olivia Ruiz qu'on vient d'entendre, la chanteuse aux 4 victoires de la musique. L'Olivia Ruiz, actrice, que vous retrouvez ce soir sur France 2 dans État d'urgence, un téléfilm où vous incarnez une femme flic. Alors évidemment, c'est un polar, ce qui tombe bien d'ailleurs, car moi j'adore les séries policières. C'est d'ailleurs à force de regarder des enquêtes que je me suis forgé cet esprit de déduction qui fait ma force. Aujourd'hui, j'ai chaud aux oreilles. Si j'ai chaud aux oreilles, c'est qu'il fait trop chaud dans le studio. Toc. Eh oui. Eh mais ça c'est 10 ans de Navarro, ça. Pertinence. C'est donc un polar, mais pas que. C'est aussi, on le disait, un regard sur le métier de policier aujourd'hui en France. Un téléfilm qui aborde aussi le thème de la conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle. C'est un tiraillement que vous vivez, vous aussi?
Pas tout le monde, hein, je crois.
Oui, plus ou moins. J'imagine que quand on est en tournée, par exemple, une grande partie de l'année, c'est plus compliqué. Alors, que quand on rentre à la maison tous les soirs.
Je ne l'ai pas encore vécu, puisque la dernière tournée que j'ai faite, il était avec moi dans le bus. Donc, je n'ai pas eu à vivre cette terrible séparation. Mais en tout cas, sa présence dans ma vie n'y est pas pour rien, dans le fait que je ne reparte pas là de suite, c'est sûr. Ça donne envie de reculer ce moment de déchirement, puisque maintenant, maternelle obligatoire, c'est terminé, la belle vie de saltimbanque tous les deux dans un bus avec 18 gars pour mettre de l'ambiance. Donc effectivement, là, je repars en tournée. Je suis repartie il y a 2 mois sur un nouveau spectacle qui va tourner en 2020. Et première séparation de 8 dodos, puisque nous comptons désormais en dodo.
Bien sûr.
Et c'est vrai que c'est d'une violence incroyable, quoi. Et en même temps, quand il est là, on travaille moins bien aussi, parce qu'on a un peu la tête à ce qui est en train de se passer avec la nounou ou la mamie. Voilà. Donc, y a pas de choix réussi, y a pas de facilité. Tout est cornélien dans ce genre de dilemme.
Alors, on le sent très bien dans le téléfilm, hein, que c'est un vrai problème, cette conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Vous nous disiez juste avant que vous avez rencontré des gens de la BAC. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était vraiment un des points les plus difficiles pour eux à vivre au quotidien ?
Non, je n'ai pas eu cette sensation-là. Par contre, il y a eu un exemple qui était assez criant que m'a donné la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure. Elle me dit, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit que j'allais continuer un petit peu le terrain, que j'allais pas m'arrêter tout de suite très tôt parce que je vibre grâce à ça et que c'est ma vie. Et dès la première intervention, à quelques mois de grossesse, elle a pas pu s'empêcher de sortir de la bagnole, de courser un gars pour l'attraper, de le plaquer au sol, un petit coup dans le ventre. Elle a été obligée de se résigner. Le renoncement, la résignation, on y a tous droit à un moment donné ou à un autre. Et elle s'est, elle s'est faite déplacer dans un bureau bien tranquille jusqu'à la fin de sa grossesse.
Mais d'ailleurs, vous courez beaucoup hein, dans le téléfilm parce que...
N'en parlez pas derrière de jeunes beaux garçons de 20 ans qui font la moitié de mon âge. Ouais, pas spécialement.
Pas spécialement.
Non, heureusement, je suis assez physique. Mais c'est vrai que...
Vous avez pris des coups quand même. Hein.
Le premier jour, Hubert Delattre, qui incarne votre coéquipier, vous a ouvert la lèvre, paraît-il, carrément. Qu'est-ce qui s'est
tout
passé? Il a mal visé
Alors, il y a une scène... c'est parce qu'il est très maladroit. Non, c'est pas du tout. Il y a une scène où il y a un micro qui tombe d'une fenêtre haute dans une cité et je tire Hubert vers moi pour l'empêcher de se prendre le micro-ondes et lui à ce moment-là je sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a mis un méga coude dans la lèvre, paf, premier jour, notre chère productrice catastrophée, et voilà, premier jour, elle a la lèvre coupée en deux et en même temps, il y avait pas de drame, il n'y a pas eu de poing, enfin c'est... Moi, je suis assez aventurière, j'aime bien me jeter corps et âme dans un projet. Donc là, Hubert m'y a beaucoup aidé dès le premier jour.
On l'embrasse d'ailleurs s'il écoute Europe 1.
C'est ça.
État d'urgence, c'est ce soir sur France 2 à 21h. Olivier Ruiz passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, la température va monter d'un degré ou deux dans le studio Coluche puisqu'il arrive. L'homme dont le sourire ravageur et la musculature font douter les cœurs les plus purs du concept même de monogamie. Quant aux cœurs déjà ouverts à la perversion comme Eva Rock, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'exclamer à chaque fois qu'ils se retrouvent seuls dans l'ascenseur avec lui et malgré l'alliance très visible à son doigt.
Allez, vas-y, on s'en fout.
Non, on ne s'en fout pas, il est marié. Anis Mbida arrive, tâchons de nous gendarmer. Il évoquera sans transition le tri des spermatozoïdes pour choisir le sexe de son enfant.
L'équipée sauvage, 16h-18h. Équipé sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipé sauvage continue 2 heures pour déterminer qui parmi les journalistes d'Europe 1 aura droit à une prime de Noël et qui se verra indiquer le chemin de la compta. 4 journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre dont la voix comptera triple en fin d'émission. Elle incarne une femme flic ce soir sur France 2 dans État d'urgence. C'est Olivia Ruiz qui nous accompagne cet après-midi. Olivia, on le sait, vous avez démarré dans la Star Academy en 2001. Mm-hmm. Vous avez bien connu Nikos Aliagas, lui aussi. Certaines mauvaises langues prétendent même qu'il l'aurait un peu trop bien connu. Des ragots probablement liés à leur duo comique l'année dernière sur l'antenne d'Europe 1.
Dès que la route devient glissante...
Oh, la route.
Eh bien, le pneu va changer de forme, il va devenir plus étroit.
Je visualise.
Et l'intérêt, c'est que ça va réduire la surface de contact sur la route.
Ouais, mais c'est pas pareil.
Avec la neige, il faut plutôt avoir des chaînes.
Des chaînes, dites-vous, oui.
Ces rainures et ces petits picots qui rausculent la surface du pneu.
Ah, les picots qui rausculent, c'est mon truc, ça. Merci beaucoup.
C'est pas ce que vous avez trafiqué l'année dernière avec Aliagas, mais vous étiez visiblement très proche de lui.
On s'adore.
On l'embrasse, vous adorez. Vous êtes notre expert innovation et cet après-midi, vous nous parlez des progrès inquiétants, cette fois de la génétique.
Oui, très important parce que la génétique, notamment pour déterminer le sexe de son enfant, on a tous entendu des méthodes de grand-mère pour choisir un garçon ou une fille. Hein, vous connaissez le régime sans sel. Voilà, le régime sans sel pour avoir une fille, des positions, la levrette pour avoir les garçons.
Oui, bien sûr.
Un orgasme, j'ai entendu qu'il fallait avoir un orgasme pour avoir une fille aussi, j'ai vu ce genre de choses.
Ah, parce que pour un garçon, on n'a pas besoin d'avoir d'orgasme.
Non, parce que, bon, pour vous expliquer, parce que certains spermatozoïdes sont plus lents que d'autres, et donc, bref. Si ça fonctionnait, ça saurait.
Olivia Ruiz est en train de me regarder.
Perplexe.
Elle m'a lancé l'air de dire, mais lui, c'est vraiment le type qui s'occupe de l'innovation sur Europe 1, mais il a quel diplôme, en fait.
Justement, ça, c'était les conseils de grand-mère. Mais sauf que la science s'y est mêlée. Des chercheurs japonais ont trouvé une technique extrêmement simple pour séparer les chromosomes, enfin les spermatozoïdes X des spermatozoïdes Y. Vous savez que les spermatozoïdes X,
c'est dur à dire, hein.
Le spermatozoïde X, c'est celui qui va donner des filles, parce que à ce moment-là, ça fait XX, et le spermatozoïde Y va donner des garçons, des XY. C'était extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir séparer ces deux spermatozoïdes. Donc souvent, ce qui se passait dans une fécondation in vitro, on allait directement chercher l'embryon, regarder si c'était un embryon, c'était un garçon, on le gardait, c'était une fille, ou sinon il fallait faire des analyses génétiques, c'était extrêmement cher. Eux, ils ont trouvé complètement par hasard une espèce de petite potion magique. Quand on la rajoute au sperme, il va bloquer complètement les spermatozoïdes X ou les spermatozoïdes Y. Ils ne peuvent plus avancer. Et donc, comme ils ne peuvent plus avancer, on peut imaginer des méthodes. C'est une méthode extrêmement simple pour trier les spermatozoïdes ou les spermatozoïdes Y.
Mais c'est une révolution, ça.
Mais oui, c'est une révolution. C'est une révolution, notamment pour, parce qu'on en a d'abord parlé pour les éleveurs qui sont, vous savez, aujourd'hui le traitement des bovins ou notamment des porcins c'est assez inhumain, parce que quand on veut des vaches laitières, eh bien on va tuer les veaux mâles, et quand on veut des vaches à viande, eh bien on va plutôt tuer les veaux femelles.
On va pouvoir en amont choisir et
ce sera un peu plus éthique dans les fermes. Pareil pour les cochons, vous savez que les porcs mâles, quand on les fait cuire, il y a une espèce d'odeur extrêmement forte à la fin, donc on est obligé de castrer les porcs quand ils sont encore prépubères, donc on n'aura plus besoin de faire toutes ces manipulations à la ferme à l'avance. Mais évidemment...
Ça pose d'autres questions éthiques pour nous.
Parce qu'on se dit que si ça fonctionne sur les mammifères, ça fonctionne sur les porcs, ça fonctionne sur les vaches, ça fonctionne sur les souris, et bien évidemment ça peut fonctionner sur les hommes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les techniques, quand on fait de la fécondation in vitro, encore une fois, je le répète, ça coûte extrêmement cher. Il faut analyser les chromosomes de chacun des chromosomes pendant la fécondation, ou sinon trier les embryons, ce qui est interdit dans pas mal de pays. Mais là, on peut imaginer une crème, un gel, que l'on pourrait mettre, et ce serait une espèce de préservatif à fille ou un préservatif à garçon. Un gel tout simple qu'on utilise, et on pourrait décider d'avoir que des garçons ou de n'avoir que des filles. Et donc, ça pose énormément de questions éthiques.
Ne serait-ce que pour l'équilibre homme-femme sur la planète. Si tout le monde décide d'avoir des garçons, par exemple, ou que sais-je, enfin, ça va créer un déséquilibre. On ne peut pas se permettre
exactement.
Ça va forcément être interdit à Nice.
Exactement. Il y a des comités éthiques aujourd'hui qui interdisent le tri des embryons, mais pas dans tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, le tri des embryons est autorisé. Il y a des pays qui ont favorisé plutôt un sexe que l'autre. On se souvient de la politique de l'enfant unique en Chine, qui a fait un ravage sur les petites filles. Ça existe, ce déséquilibre, et a été créé dans pas mal de communautés, dans pas mal de cultures dans le monde. Il y a aussi des gens qui, on connaît tous ces techniques, qui veulent plutôt avoir une fille, qui veulent plutôt avoir un garçon. Donc ça inquiète énormément ce genre de technique. Mais vous l'avez rappelé, c'est interdit aujourd'hui. Là où on a un problème avec cette technologie, c'est qu'on ne pourra pas interdire un gel. C'est-à-dire qu'on peut interdire une analyse en laboratoire, une implémentation d'une fille.
Mais un gel qu'on commande, ça sera
beaucoup plus compliqué. Notamment si justement on peut l'acheter n'importe où, ou si c'est interdit dans un pays, ce n'est pas forcément interdit dans d'autres. Donc on se pose des questions. La nature est extrêmement bien faite aujourd'hui. Moi, je sais qu'il y a une artiste formidable qui chantait une chanson qui disait « I need a child ». disait pas qu'elle voulait un garçon ou elle voulait une fille, elle voulait juste un enfant, parce que la nature est plutôt bien faite. Si aujourd'hui on a 50%, enfin 51-50 de garçons et de filles, c'est peut-être pas pour rien qu'on a cet équilibre qui fonctionne.
Écoutez, Anissé, j'aimais bien ce sujet, je le trouve intéressant, puis je trouve que c'est un petit peu facile d'avoir mis la chanson d'Olivia Ruiz à la fin pour essayer de glaner des points. J'y vois une manœuvre.
Oui, moi j'étais sortie de la compète.
Et oui, Olivia, parce que vous votez à la fin. Et donc là vous voyez, rien n'est gratuit avec Anissé, à mon avis tout est calculé.
C'est incroyable, on vit dans une époque incroyable. Moi, je me suis beaucoup attardée sur les tests ADN que j'ai fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup offert autour de moi. C'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir apprendre qu'on est à 40 balais juive ashkénaze à 9%. Et puis qu'on n'a rien de français en nous. Je trouve que c'est complètement fou, ça ouvre des perspectives magnifiques et en même temps c'est extrêmement flippant.
Vous l'avez
extrêmement
beaucoup
flippant.
Offert autour de vous, ce test, peut-être qu'on pourrait l'offrir à Éric Zemmour, comme ça il découvrirait peut-être des origines intéressantes, peut-être qu'il le ferait réfléchir.
Et son nom, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au test ADN. Mais ce serait quand même sacrément rigolo d'avoir marrant, un résultat qui le rende malade, juste pour le plaisir.
On a le temps pour entendre évidemment la question vache. De l'autre chronique, Anne Le Gall, vous allez réussir à être vache sur ce coup ?
Est-ce que c'était une vache homme ou femme ? On ne sait pas.
Je ne sais pas, mais on enquêtera, Eva. Bonne intervention, en tout cas.
Alors, j'avais déjà évoqué un sujet dans cette émission. Il y a déjà des élevages qui choisissent le sexe des embryons à naître. Est-ce que vous savez quel type d'élevage le fait, déjà ?
Pour les poussins.
Les poussins.
Les poules. Parce que ça aussi, c'est une catastrophe. Parce qu'on tue les bébés.
C'est horrible.
Les poules, c'est une
broie.
Catastrophe.
Effectivement.
On sélectionne effectivement les poussins.
Je vous avais prévenu, Annie, c'est imprenable de toute façon. Donc il a forcément réponse.
On sélectionne les
la bonne nouvelle,
femelles
c'est que
pour éviter de tuer les mâles.
De ce côté-là aussi, ça la avance. Recherche a avancé et on est capable à l'extérieur de savoir si c'est un poussin un garçon ou un poussin fille et de pouvoir les trier ou plutôt que les broyer.
Broyer les poussins, cette technique encore en vigueur aujourd'hui. Hein, il faut le préciser.
C'est autorisé en France.
C'est bientôt la fin de cette horrible pratique.
Ouais, mais techniquement, c'est très compliqué à faire de détecter le sexe à l'avance, à travers la coquille, quoi.
À travers la coquille. Merci Anissé Mbida qui a su répondre et il a su déjouer la question piège. État d'urgence, c'est ce soir sur France 2. Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est l'histoire d'un espoir déçu. Sa mère, Geneviève Rock, avait espéré pour elle un cursus prestigieux. Normal Sup, Polytechnique, Harvard. Au lieu de ça, Eva se fait rétamer chaque jour dans le quiz qui l'oppose à l'invité.
Je suis désolée, maman.
Eva Rock contre Olivia Ruiz, la femme chocolat contre la femme pina colada. Qui l'emportera ? Les paris sont ouverts.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, une émission hybride à la lisière du journalisme et du divertissement, de l'information et de l'humour, de la rigueur et de la gaudriole, de bref. Comme il faudrait des plombes pour vous l'expliquer, disons tout simplement Eva.
Bienvenue dans le monde de la connerie.
Bienvenue à Olivia Ruiz, notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la diffusion ce soir sur France 2 d'État d'urgence, un téléfilm dans lequel vous incarnez une femme flic qui vit une véritable descente aux enfers. Être femme tout court, même en 2019, ça reste compliqué, mais être femme flic, alors ça c'est encore plus dur.
Bah oui, l'aventure qui lui arrive avec son fils est terrible, puisqu'elle va arrêter parce qu'il n'a pas de papier. Un des amis de son fils, et la rupture avec son enfant va arriver à partir de ce moment-là. Mais effectivement, j'imagine bien la difficulté pour un jeune aujourd'hui d'avoir une maman qui fait partie d'une brigade de la BAC.
En plus, elle se prend une enquête de l'IGPN. Il y a tout qui s'accumule pour cette femme dans ce
ouais,
film.
Oui, je crois que malheureusement, c'est pas rare.
Cette accumulation qui fait le quotidien des policiers, c'est souvent l'accumulation qui entraîne des drames. On rappelle 54 policiers morts depuis.
Ils se sont donné la mort depuis le début de l'année.
Depuis le début de l'année. C'est un chiffre qui fait peur. L'esprit de compétition, Olivia Ruiz, comme dans le quiz qui va suivre, vous l'avez connu à vos débuts, notamment au moment de la Star Academy en 2001. Est-ce que votre carrière aurait été différente sans ça ? Aujourd'hui, votre carrière a tellement dépassé la Star Academy. Vous avez eu 4 récompenses aux Victoires de la musique. Vous avez une carrière installée. Mais est-ce que parfois vous y ressongez ? Vous vous dites. Comment ça aurait tourné si j'avais pas fait la Star Academy ?
Ah bien sûr, je crois que je sais. J'aurais pris ce que les gens appellent un métier normal, ou bien j'aurais fait comme mon papa, un petit peu de bal pour être sûr d'avoir le nombre de cachets nécessaires, et puis des choses purement pour le plaisir qui ont plus de mal à rapporter de l'argent. C'est le lot de tous les musiciens, aussi talentueux soient-ils. Dans nos régions. Donc, bien sûr que grâce à ça, j'ai pu avoir un accès immédiat à une maison de disques, un producteur de spectacle, qu'il a fallu ensuite convaincre. Et c'est le drame de ces émissions. C'est que on laisse penser aux gens qui participent que l'émission est une finalité alors qu'elle est le démarrage d'une belle série de galères et de combats. Et ça, c'est vrai que c'est dramatique. Moi, plein de fois, j'ai envie d'hurler à tous ces gamins que je vois débarquer. Mais non, protégez-vous. Ou trop jeune, quoi. Trop jeune. Je pense qu'il y a une maturité qui est nécessaire. Alors, j'avais 21 ans, je n'étais pas bien vieille non plus. Mais en tout cas, j'avais vécu suffisamment de choses pour gérer les confrontations à toutes les dérives de ce métier-là aussi.
Alors, Olivia Ruiz, votre nom de scène, Ruiz, vous l'avez choisi en hommage à votre grand-mère, issue d'une famille espagnole qui avait fui le franquisme. On va en reparler tout à l'heure. Mais pour l'instant, notre quiz du jour est donc un vrai faux sur l'Espagne. Une bonne réponse.
Je vais encore perdre.
Parce que, en plus, Eva Rock est nulle sur l'Espagne.
Je suis nulle au quiz.
Non, mais attendez, vous allez voir.
C'est vrai.
Vous allez être deux alors. Hein. Une bonne réponse vaut un point. C'est parti. Olivia Ruiz, Amy Winehouse a chanté trois de ses tubes en espagnol, vrai ou faux?
On va dire vrai au pif complet.
C'est faux. Par contre, Chantal Goya a chanté Le Lapin en espagnol. Ça n'a pas grand-chose à voir, je vous le concède, mais on avait juste envie d'entendre cette chanson.
Olivia, qui parle très bien espagnol, a un doute sur l'espagnol de Chantal Goya.
Non, j'avais du mal à entendre, j'essayais d'entendre, mais...
Vous voulez dire que Chantal Goya parlerait mal espagnol?
Pas du tout, j'ai beaucoup
passé... C'est une attaque grave.
...de Chantal Goya pendant mon enfance. Je ne dirais rien de méchant.
Eva Rock, en France, pour faire sourire avant une photo, on dit « Ouistiti », enfin bon, c'était dans la France de Pompidou. Hein. Ouais. En Espagne, on dit « Patatas », vrai ou faux?
Patatas.
Elle essaye.
Terrible moment de solitude si vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr. Oui, patatas.
Il était joli le sourire en patatas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beau sourire.
Non, non, ça, j'ai l'impression que ça marche pas. Il faut forcer.
Ça ne marche
donc,
pas,
non,
il faut
non.
forcer. Ouais. Pourtant, c'est vrai.
Ah bon?
Et oui. Et oui, et Olivia le savait. Aux Pays-Bas, on dit Zag en Skas. Et si vous arrivez à sourire en disant Zag en Skas, envoyez-nous une photo. Hashtag Europe 1. Olivia Ruiz, Eva Rock, vous jouez en même temps, vous donnez votre choix. En même temps, je viens de répéter la même chose deux fois, on le coupera en montage. En France, on a Netflix. En Espagne, il y a Napflix. En quoi cela consiste? Trois propositions. 1. C'est un site avec plein de vidéos chiantes pour s'endormir. 2. C'est un site où l'on peut voir toutes les caméras des villes d'Espagne accessibles à tous, ce qui finalement équivaut à la première. Ou 3. C'est un site de films espagnols avec des acteurs espagnols réalisés par des acteurs espagnols. Napflix.
Aucune idée.
Ah, moi je dirais bien les villes. Les villes d'Espagne.
Les villes?
Oui.
Eva Rock, les villes, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est un site...
Mais vous n'avez même pas attendu qu'Olivia
réponde.
Mais Olivia
a dit qu'elle n'avait pas d'idée là-dessus.
Ah ouais. Bon, ah,
la
d'accord.
Siesta vidéo plateforme, des heures et des heures Génial. De programme, des plans fixes sur un palmier, sur une plage tropicale, sur un sablier, ou sur des flamants roses, ou sur une bougie qui brûle, avec aussi des documentaires sur la pétanque et des compétitions d'échecs, imparables pour trouver le
du
sommeil.
Golf, non, en vrai.
Alors, le golf, c'est censé plaire à certaines personnes. Jamais compris non plus, mais...
Oui, pour c'est vrai d'autres, que c'est sacrément soporifique.
Ah, ça c'est sûr. Eva Rock, attention, en 1980, la marque de voiture Mitsubishi a lancé le 4x4 Pajero, que tous les amateurs d'automobiles connaissent. Sauf en Espagne, parce que Pajero signifie « personne qui se masturbe », vrai ou faux?
Allez, je dis oui. Je dis vrai.
C'est vrai. C'est vrai. Du coup, en Espagne et dans les pays d'Amérique hispanophones, au Canada et aux États-Unis, c'est le 4x4 Montero. Là, j'ai vraiment appris quelque chose. Olivia Ruiz, attention, ça va vous départager. La recette de la bière Desperado a été élaborée à Séville, vrai ou faux?
J'aurais pas mis ça à Séville, moi, personnellement. À la limite, dans la Sierra Nevada, peut-être. Mais
peut-être dans la Sierra Nevada plutôt. En tout cas, c'est faux.
C'est bonne réponse, c'est faux.
Mais c'est pas du tout dans la Sierra Nevada non plus. C'est une bière alsacienne inventée par la brasserie Fischer, près de Strasbourg, rachetée par le groupe Heineken en 96. C'est donc une bière hollandaise.
Le nom est tellement parlant. Voilà.
Il nous a induit en erreur. Qui remporte ce quiz? C'est Olivia Ruiz qui remporte le quiz.
Vous n'en avez même pas compté.
Vous ne connaissez pas Véronica. Elle incarne ce soir une femme flic dans La Tourmente, état d'urgence à 21h sur France 2. Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, une fois par semaine, elle part sur le terrain en immersion. Et aujourd'hui, je préfère vous prévenir, connaissant notre esprit mal tourné, de tous ces reportages, c'est probablement celui qui risque de déraper le plus. Oui, Eva Rock a enquêté sur une nouvelle tendance, le facialisme. Un sujet qui, si j'ai bien compris, devrait être bippé.
Putain, mais j'ai du partout, quoi.
Oui, visiblement, j'ai bien compris. Vous nous expliquerez tout ça après Imagine Dragons, Birds sur Europe 1. Birds, c'était Imagine Dragons sur Europe 1. Et c'est Olivia Ruiz qui nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la diffusion ce soir sur France 2 d'un téléfilm dans lequel elle tient le premier rôle, État d'urgence.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipe est sauvage, 2h pour faire rimer culture générale et bonne humeur, ce qui n'est pas facile car l'un se termine par râle et l'autre par meurtre. Heureusement, la Providence nous a donné Eva Rock, journaliste média, capable aussi, quand il le faut, d'aller sur le terrain et de payer de sa personne afin de vous faire découvrir de nouvelles pratiques. Or, parmi ces nouvelles pratiques, il y en a une qui a retenu votre attention et, disons-le, piqué votre curiosité. C'est ce qu'on appelle le facialisme.
Franchement, ça n'a pas trop de goût, c'est assez filandreux.
Oui, non. N'allons pas trop vite en besogne. Expliquez-nous d'abord ce qu'est le facialisme. J'ai peur qu'il y ait un quiproquo.
Pour être totalement honnête, j'ai découvert un nouveau métier et, pour être exact, c'est un nouveau métier surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Je vous présente donc Delphine Langlois. Elle a 40 ans et sa profession, c'est facialiste.
Alors, facialiste, donc, c'est une professionnelle qui est diplômée de l'esthétique et qui est spécialisée dans le visage. Donc, c'est-à-dire que j'ai entre mes mains différentes techniques de massage. Les clientes viennent me voir parce qu'elles sentent leur visage fatigué. Elles sont en manque d'éclat. Voilà, elles sentent un manque de tonicité, de fermeté. Donc, elles viennent me voir pour tout ça, pour justement rebooster la peau, tonifier les muscles et avoir une action anti-âge.
Donc, rendez-vous dans le cabinet de Delphine Langlois, du jazz en ambiance sonore. Sur la table de massage chauffante, il y a Christine. Christine, depuis un an et demi, elle vient se faire masser le visage.
Attendez, on va faire un point là-dessus quand même. Oui. Eh ben, en fait, vous êtes allée vous faire un soin, gommant, et la meuf, elle en a fait un reportage pour Europe 1.
Mais non, écoutez la suite. Non, mais écoutez la suite. D'abord, si vous m'avez bien écouté, c'est Christine qui est sur la table de massage
c'est
et c'est pas moi. D'accord. Voilà. Alors, tout débute avec des grands gestes qui sont réalisés par Delphine, notamment sur les joues pour chauffer les muscles, parce que notre visage compte 54 muscles. Et puis petit à petit, Delphine, elle va travailler par pincement, elle appelle ça l'effet gonflette. Et puis elle va faire du stretching avec vos muscles du visage, exactement comme pour les autres muscles du corps. Elle a appris toutes ces techniques, notamment celle du Kobido auprès d'un maître japonais. Elle a suivi des cours aux États-Unis et puis surtout, elle s'est replongée dans des manuels pour comprendre les mécanismes de la peau, des muscles et de la lymphe. Pendant ce temps-là, le massage se poursuit sur Christine avec une autre technique plus étonnante, un peu déroutante, le massage intrabuccal.
J'ai enfilé mon index dans la bouche et donc j'effectue une pince entre mon index et mon pouce pour masser les muscles, voilà, en interne et en externe. Et donc ça permet d'avoir une action beaucoup plus profonde. Donc là, je travaille au niveau du sillon nasogénien. Je vais pouvoir repulper cette zone-là.
Repulper.
Oh non, mais alors, c'est les gestes sont.
Olivia a envie de prendre rendez-vous.
Mais les gestes sont. C'est très précis.
Mais
parce que chaque centimètre carré.
C'est médicalement prouvé.
Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Chaque centimètre carré du visage est massé, c'est étiré. Et puis Delphine, elle adapte d'ailleurs chaque soin aux fonctions, en fonction des besoins des clientes. Si vous voulez un effet anti-rides, notamment sur le front, elle va travailler sur le front spécifiquement.
Et le sillon nasogénien, il est où
Alors, c'est entre le nez et ce qui descend le long de votre bouche, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà, qui a tendance à se creuser avec l'âge. Et donc, au bout des 50 minutes de massage, j'ai demandé à Christine comment elle se sentait.
Ça n'a rien à voir avec un soin esthétique classique où on vient vous mettre de la crème, vous faire des gommages, vous laisser un masque. Là, on sent vraiment que c'est pendant 50 minutes du travail des mains sur l'ensemble du visage, de bas en haut, de haut en bas, en intrabuccal, vu que j'ai eu la chance d'avoir un massage intrabuccal. Et c'est vraiment, oui, une sensation de détente, de lâcher prise. Et à la fois, on est concentré quand même sur les mouvements. On se laisse porter.
Alors, après avoir assisté à cette séance, Delphine Langlois m'a proposé de le tester. J'ai accepté. Et je dois dire que c'est assez bluffant parce que les rides du front sont estompées très rapidement et on a un meilleur teint. Et tout ça sans aucune cosmétique. C'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que c'est des nouvelles techniques qui n'utilisent pas de produits qu'on essaie de vous refourguer à la fin de la séance. Il y a simplement une huile de massage, évidemment, pour effectuer le soin.
Olivier, et donc,
ça
c'est proche du Kobido, c'est ça?
C'est exactement ça.
Vous connaissez
ça fait
le Kobido?
Partie du Kobido.
Alors, j'ai lu un super papier dans la presse. Il y a quelques mois, alors j'ai cherché massage Kobido sur internet, j'ai trouvé pas loin de chez moi, et là, comment vous dire? Et au bout d'une heure, j'étais grasse, que j'en pouvais plus. Eh oui, je venais de laver mes cheveux, les cheveux étaient dégueu, j'avais la même tronche de travers qu'en entrant, et peut-être en pire qu'en entrant, finalement.
Et vous savez pourquoi?
Mes muscles, je vois pas. Je pense que le mec, il a vu Kobido, c'est un monsieur.
Et ben, je vais vous expliquer pourquoi.
Il a dit, je vais appuyer sur trois trucs.
Oui, c'est
et
ça.
Puis je...
Exactement.
Et
mais c'est extrêmement important ce que vous dites. C'est extrêmement important parce qu'en fait, les personnes qui font ces techniques-là ne sont pas formées aujourd'hui en France. Elles sont que 6 sur la région Paris-Île-de-France et il y en a quelques-unes dans les grandes villes en France. Et c'est pour cette raison que Delphine Langlois, parce qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas assez de professionnels, crée une école de formation l'année prochaine en France, à Paris pour l'instant. Et ça
se développera ensuite en province.
Là. Non, mais là, vous avez testé, on peut avoir confiance.
On peut avoir, si vous avez confiance dans Eva, moi, allez-y d'abord, Olivia, j'irai après. Hein, on verra
et je reviens vous en parler.
On verra comment vous ressortirez. Ça coûte combien, ça, Eva?
Alors, ça, c'est assez cher, parce que c'est à partir de 70 euros la demi-heure, ce qui est un peu plus élevé qu'un soin esthétique.
Et ça dure longtemps?
Vous pouvez aller jusqu'à 1h15.
Non, l'effet.
Ah, l'effet, ben oui. Non. Parce qu'en plus, ça vous apprend à vous automasser, donc vous pouvez prolonger les effets du soin après chez vous.
Ce qu'on fera jamais, bien sûr.
Franchement, je le fais. Oui. Franchement. Oui, c'est facile.
Quel mytho, c'était énorme. Merci.
Qu'il est bête.
Quelle courageuse.
Calmez-vous, enfin, des scènes. J'espère que vous nous suivez aussi en vidéo. Merci beaucoup, Eva Roque.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue avec Olivia Ruiz, que vous retrouvez ce soir sur France 2 dans État d'urgence, un téléfilm qui nous entraîne au cœur du mal-être des policiers français. Et la compétition continue. De nouveaux concurrents s'apprêtent à nous rejoindre. Emmanuel Duteil et Fred Goati. Messieurs, saluez-vous.
Je te ferai mordre la poussière.
C'est ce qu'on va voir, ma poule. Prépare-toi à mourir.
Oui, l'attention monte d'un cran dans l'équipée sauvage. De nouveaux sujets vous attendent. Vous saurez tout sur le clan Eastwood, où le talent est visiblement héréditaire. Et puis un coup de gueule, celui de l'État français contre le nucléaire.
Tu me fais chier.
Oui, quand il s'estime floué, même l'État peut être vulgaire. À tout de suite.
16h, 18h,
l'équipée sauvage sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue, la Ligue des champions des journalistes d'Europe 1. De nouveaux compétiteurs s'échauffent en coulisses, échangeant les amabilités d'usage dans ce genre de compétition.
Moi, je vais te défoncer la gueule.
Vous êtes le plus lâche de tous les salopards.
Emmanuel Duteil et Fred Goati vont nous parler respectivement du coup de gueule de l'État contre le nucléaire et du génie visiblement contagieux chez les Eastwood. Le tout évidemment sous l'œil de notre invité d'honneur cet après-midi, Olivia Ruiz, qui passe un aussi beau moment que Christophe Onodibio hier, qui à ce moment précis de l'émission s'était exclamé...
C'est terminé ?
Non, c'est la moitié de l'émission.
Ah oui ! Bon bah très bien.
Olivia, vous restez avec nous ?
Ah, mais c'est pas la moitié de l'émission. Oh,
c'est qu'il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1,
16h, 18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit, émission hybride s'il en est. Rencontre étonnante entre volonté d'apprendre et envie de déconner, à mi-chemin d'un film d'Api Chapong Warazatakul sélectionné à Cannes et d'un nanar d'horreur des années 70 qui s'appellerait Les Cobras étaient dans les WC.
Mais d'où vient ce foutu serpent de merde?
C'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes.
Ça existe en fait. Bienvenue donc dans la deuxième phase de l'équipée sauvage, sous l'œil cet après-midi d'Olivia Ruiz, que vous retrouvez ce soir en femme flic dans État d'urgence sur France 2. On continue d'en parler ensemble. Le temps simplement, Olivia, de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. Le premier est un petit nouveau dans l'équipe. Je l'ai fait venir pour deux raisons. Un, parce qu'il est directeur de la rédaction de Jazz Magazine. Et deux, parce qu'il est d'une nature excentrique qui peut servir l'émission.
Eh, hey, j'ai rien sur ma toge. Je vais tout virer, je suis complètement à poil là-dessus.
C'est QFD, bonjour Fred Goati.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans la famille Eastwood, je demande, je ne sais plus qui demander parce qu'ils sont tous géniaux en fait.
Au nom du père, au nom du fils, Clean to Kyle. Alors Kyle ou Clean, ça ressemble à un exercice de diction, mais non, vraiment. Le papa fait du cinéma, mais pas que, et le fils fait du jazz, mais pas que. Et tout le monde est content.
À ses côtés, Olivia Ruiz, un homme déboussolé. Pas seulement parce qu'il est dixième du classement général, ce qui n'est pas fameux lorsqu'on est quand même chef du service économique d'Europe 1, mais surtout parce qu'il craint, comme l'État français, d'avoir fait le mauvais choix en misant sur le nucléaire. Au vu des déboires récents de cette technologie, il regrette d'avoir chanté avec les jeunes de l'UMP.
Toi qui veux sauver la Terre, choisis donc le nucléaire.
C'était un clip des jeunes de droite pour le nucléaire. C'est un peu votre mea culpa que vous faites cet après-midi, Emmanuel Duteil.
Oui, je ne confirmerai pas l'information comme quoi vous laissez entendre que j'ai été un jeune UMP ou un jeune RPR. Mais passons, on va parler nucléaire. Alors c'est vrai que c'est un pari parce que sur le papier ça peut paraître très ennuyeux comme sujet. Mais il n'y a jamais eu un tel fiasco industriel en France depuis quelques années. Puis en plus je vais essayer de le faire de façon peut-être un poil humoristique. Bon, la façon dont je suis capable d'être humoristique, mais j'aurais pas dû ajouter ça.
Vous avez bien fait d'ajouter ça. Le Gad Elmaleh de l'économie arrive. Quel sujet aura vos faveurs? Réponse peu avant 18h. En attendant, on continue d'apprendre à mieux connaître notre invité du jour, Olivia Ruiz. Qui est pour vous Olivia Ruiz? On est allé vous poser la question. Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité, voici notre traditionnel micro-trot-trash. Une sorte de micro-trottoir feignant qu'on n'a pas pris la peine de monter. On met tout en vrac.
Olivia Ruiz, c'est une musicienne, c'est une chanteuse.
Hola Olivia, que tal?
Elle est charmante, ouais.
Brune, elle a une grande bouche, elle a des yeux noisettes, type méditerranéen. Elle est du sud de la France, donc une petite brunette, bien tonique.
Elle est toute menue, elle a toujours du rouge à lèvres rouge. Ça a l'air d'être une femme de caractère, hein. Du au rouge à lèvres rouge.
Couleur chocolat, la chanson chocolat, là.
Des chansons enjouées, voilà, qui mettent de bonne humeur.
Quand tu l'entends parler de ses mômes, etc., elle est beaucoup plus mature qu'elle, qu'elle n'y paraît.
Il n'y a pas photo pour la scène, en fait. Elle fait de la scène depuis qu'elle est toute gamine. Et ça, ça se sent, ouais. C'est une enfant de la balle, quoi. C'est pas un produit fabriqué.
Une enfant de la balle,
c'était
pas
gentil
un produit fabriqué.
Hein.
Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous nous disiez ce que la Starac vous avait apporté au début en termes de tremplin, mais ça aurait pu aussi être une étiquette. En France, on a beaucoup d'étiquettes. Ça aurait pu être une étiquette qui vous empêche justement de vous épanouir en tant qu'artiste, ce que vous avez réussi à faire finalement.
Bon, je pense que...
Non, ça vous a jamais, vous vous êtes jamais dit, je vais traîner cette image de la Starac, et en fait, alors que j'ai quand même beaucoup plus à offrir que ça.
Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, le truc qui est le plus récurrent, c'est pas ça, c'est le chocolat.
Chocolat. Ah, le chocolat.
Et ça, c'est trop mignon, parce que c'est vrai que, ben voilà, il y a quand même pire que d'avoir un petit gamin ou une maman qui arrive, la dame chocolat, alors ils ont tout refait à leur sauce, 10 ans plus tard, mais madame chocolat, la dame chocolat, demoiselle chocolat. Mais en tout cas, c'est ça le truc récurrent, et je trouve que c'est adorable, parce que cette chanson n'était pas juste une chanson jolie, c'est une chanson sur les complexes, sur le regard de l'autre, ce qui est à nouveau le sujet aujourd'hui de mon prochain spectacle. Et je me sentais très fière de porter ce message qui était celui de dire « Tu as beau te voir d'une façon extrêmement moche, arrête de chercher à correspondre à un physique que portent les magazines comme étant le physique parfait. Cherche l'amour de l'autre et regarde-toi dans des yeux aimants qui sont posés sur toi. » Donc elle était à la fois d'une grande fraîcheur, cette chanson de Mathias Malzieu, inspirée par ma passion pour le chocolat et le fait que je sois tout de même quelqu'un d'assez mal dans sa peau. Et
vous l'êtes toujours, mal toujours. Dans votre peau, Olivier?
Non, je suis contrôle freak sur mon physique. J'ai été une petite ronde à l'adolescence et du coup, c'est vrai que bah voilà, comme je suis extrêmement gourmande et que je ne peux rien me refuser en ce qui concerne les plaisirs de la chair, il faut bien que je compense en faisant du sport ou en courant derrière mon petit gars, je n'ai pas d'autre choix.
Notre gourmande à nous a une question.
Mais oui, mais justement, quand on demande aux gens aussi autour de nous ce qu'ils pensent de vous, il y a souvent quelque chose qui ressort, c'est votre énergie sur scène. Beaucoup sont venus vous voir sur scène ou vous ont vu aussi dans les clips.
Et il y a un côté interactif aussi sur scène.
Oui, il y a un côté très interactif aussi avec le public. Il y a une dépense d'énergie incroyable et vous jouez beaucoup. C'est vraiment la comédienne aussi qui ressort sur scène. Ça, c'est ce que vous avez appris avec votre papa quand vous faisiez les balles avec lui notamment.
Je sais pas si c'est un truc qui s'apprend, ça. Je crois que c'est une,
un tempérament. Vous l'aviez en vous
déjà ? Bah, quand on se dit on a la chance d'avoir des gens qui se déplacent et d'avoir 1500 personnes, je sais pas, qui font une démarche d'aller acheter un billet, de prendre leur bagnole, alors que souvent c'est en semaine, et qu'on les a devant, moi je sais qu'à chaque fois ça me fait le même effet. Je me dis, peu importe ce que je vais faire, mais en tout cas, il faut que les personnes qui sont là ce soir, pendant les 2 heures qu'elles passent avec moi, ne pensent qu'à des choses positives ou ne fasse que voyager à travers des petites histoires poétiques. Donc la transpiration va avec. Il faut que ce soit spectaculaire. Et en même temps, là, le spectacle que je viens juste de créer, qui tournera l'année prochaine, ah ben, il n'y a pas de bond, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de... Je ne me roule pas par terre. Ce n'est pas du tout basé sur l'énergie, c'est sur la voix. C'est
la thématique de ce spectacle, pouvez-vous nous
dire ? Ça s'appelle Bouche cousue au pluriel, et la thématique, c'est notre regard sur l'autre quand on est petite fille d'immigrée espagnole et qu'on se rend compte que 80 ans après l'exode des républicains espagnols et leur entrée dans les camps du sud de la France, y a toujours une jungle de Calais... Il y a toujours un a priori, un rejet de l'autre. On ressent cette nécessité de juste parler de sa communauté d'ancrer à la fois une forme de régionalisme et en même temps de se dire que la France serait tellement ennuyeuse et fade et insipide sans tous ces gens qui l'enrichissent quotidiennement, décennie après décennie. Que voilà, juste changer un petit peu notre regard sur l'autre, et bien sûr à travers le prisme de l'Espagne, puisque c'est mon histoire, et que c'est à travers cette musique-là qu'on va se balader dans ce voyage poétique.
Chanteuse accomplie, évidemment, mais aussi actrice, vous la retrouvez ce soir sur France 2 dans un téléfilm intitulé État d'urgence. Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Fred Goetti, Emmanuel Dutheil sont à mes côtés à suivre longtemps entre la France et le nucléaire. Ça a été une grande et belle histoire d'amour. Oui, j'adore cette chanson. Je la trouve magnifique. Mais les histoires d'amour finissent mal en général.
Tout va bien.
Je ne peux pas qu'on en parle. Emmanuel Dutheil nous raconte le coup de gueule de l'État contre le nucléaire français. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures en compagnie aujourd'hui d'Olivia Ruiz pour la diffusion ce soir sur France 2 d'État d'urgence, téléfilm choc sur le mal-être des policiers où elle incarne justement une femme flic à bout de nerfs. On continue d'en parler, mais la compétition bat son plein. C'est à présent un homme qui n'a plus rien à perdre qui s'approche du micro. 10e du championnat, ou selon comment on le lit, avant-dernier. Emmanuel Dutheil, chef du service éco, ne prend plus de gants pour dire ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est qu'aucune femme n'arrive à la cheville de son idole.
Elle est très belle, Meghan Markle.
Bon, elle est moins belle que Claire Chazal. Hein.
Une liberté de ton, vous allez nous démontrer une fois de plus, Emmanuel. En nous parlant...
Mais quand est-ce que j'ai encore dit une ânerie par
Je ne sais pas, mais vous le pensez vraiment.
Ah oui, je le pense vraiment, mais quand même.
Alors, mon cher Emmanuel, vous avez opéré il y a quelque temps une remontada en forme de feu de paille dans notre émission. Vous tentez néanmoins de séduire nos invités, mais parfois ça ne prend pas. Emmanuel Dutheil, cet après-midi, vous nous parlez du nucléaire.
Oui, alors je m'étais peut-être un peu survendu tout à l'heure quand vous avez parlé de quelque chose d'humoristique pour vous parler
attend,
du nucléaire.
Mais est-ce quelque que chose d'énorme.
Vous... Alors, le seul point humoristique était le début de ma chronique, donc je vais quand même le faire. Alors,
l'art de se savonner la planche soi-même.
Non, mais alors attendez, vous connaissez le sketch de Muriel Robin sur la réunion de chantier ?
Oui.
Bon. Eh bien voilà, eh bien, on pourrait faire le même sketch finalement sur l'EPR de Flamanville. L'EPR c'est quoi ? Vous savez, c'est cette centrale de nouvelle génération beaucoup plus puissante. Pourquoi on pourrait faire le même sketch ? Parce que rien ne se passe comme prévu et à chaque fois qu'on pense avoir réussi à trouver une solution, ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner quelques chiffres. Cet EPR gigantesque devait ouvrir en 2012. On est en 2019, il ouvrira finalement, et encore si tout va bien, en 2023. Il devait coûter un petit peu plus de 3 milliards d'euros. Il va en coûter finalement quasiment 12 milliards et demi. Et là encore, si tout va bien. Alors on pourrait se dire, c'est EDF qui va payer. Mais non, EDF, ça appartient à l'État français. 80% encore du capital est à l'État français. Donc, grosso modo, c'est nous, consommateurs, qui allons devoir en partie financer. D'où ça vient ce problème ? À cause d'énormes problèmes de mise en place. Et qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'un rapport vient d'être remis à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et grosso modo, qu'est-ce que nous dit ce rapport ? C'est que tout a été fait à l'envers.
Alors, qu'est-ce qui pose problème ?
Eh bien, c'est un problème... Alors là, si je reprends mon sketch de Muriel Robin, parce que vu que j'avais promis d'être humoristique, c'est pas un problème de petite fenêtre, c'est pas un problème de grande marche,
non.
Ou c'est pas un problème de plan de table qui serait trop bas. Je suis allé revoir le spectacle il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je suis à peu près bien au niveau là-dessus. C'est un problème de soudures qui ont été mal faites dans la cuve de ce futur OPR.
C'est possible donc... de rater des soudures dans une cuve nucléaire.
Tout ce qu'on en est, on a fait des soudures en classe de 3e, en technologie.
Ah oui, alors heureusement que c'est pas moi qui ai fait les soudures, ça dit dans l'OPR. Hein, parce que...
Moi, je m'étais rendu compte à ce moment-là que ça pouvait déjà être très compliqué, les soudures sur mon petit thermomètre que je devais faire pour la fête des pères ou un truc comme ça. Alors là, on est sur des soudures beaucoup plus compliquées, puisqu'on est sur des soudures dans la cuve de cette future centrale nucléaire. Elles ont été ratées, et elles ont été ratées à des endroits hyper compliqué d'accès, puisque depuis on a tout refermé. Il faut voir que l'EPR pourrait quasiment ouvrir. Tous les travaux sont finis, on a fait la peinture, on a tout fait. Donc là, il va falloir envoyer des robots pour réussir à réparer ces soudures. Mais certains doutent même du fait qu'on puisse y arriver.
Mais comment on en est arrivé là ?
Bien, il y a au moins deux raisons. La première raison, c'est une perte de compétences parce qu'on n'a pas construit pendant des années, des dizaines d'années, des centrales nucléaires en France. Du coup...
On avait perdu la main, quoi.
Mais c'est tout bête, oui. On avait perdu la main puisque plus personne n'était véritablement formé à faire des centrales. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on est tellement pas doué en France qu'on arrive à se tirer dans les pattes avec des groupes qui devraient pourtant être complémentaires. Parce qu'on avait deux géants du nucléaire, un groupe qui s'appelait à l'époque Areva, et de l'autre côté EDF. Areva construit aussi en ce moment un EPR en Finlande. Alors là, c'est encore pire. On a encore plus de retard et encore plus de différentiel entre les deux. Mais EDF s'est dit, nous, on est plus forts, on bombe le torse, pas besoin de regarder ce qu'ils ont foiré là-bas. Nous, dans tous les cas, on saura bien faire. Et donc, c'est la deuxième explication du fait qu'on s'est senti un peu trop fort et on a cru qu'on arriverait. Parce que si c'est si compliqué là-bas, c'est qu'on construit une sorte de prototype. Et quand on construit un prototype, c'est toujours extrêmement, extrêmement compliqué. Mais là, ça met vraiment en énorme difficulté le projet. D'où le fait que le ministère de l'économie tense, notamment EDF, en lui disant « Vous avez un mois pour me faire un plan pour relancer la filière nucléaire en France.
Là, à vous écouter, le torchon brûle entre le nucléaire et l'État français, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en même temps, il y a d'autres centrales nucléaires qui sont prévues. Encore.
Oui, effectivement, ils veulent construire de nouvelles centrales. Alors, on en a besoin, puisque nos centrales actuelles vont bien évidemment fermer à un moment. On a 58 réacteurs aujourd'hui. L'idée, c'est quand même, dans un premier temps, de faire fortement monter, enfin, on pourrait dire, le renouvelable, puisque aujourd'hui, on sait faire, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, ce genre de choses. Et puis, il faut voir que même ces énergies renouvelables aujourd'hui deviennent, même économiquement parlant, intéressantes. Le seul gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas encore correctement stocker ces énergies renouvelables. Mais ça, on devrait être capable d'y arriver. Et quand on va y arriver, ce sera important. Mais on ne peut pas s'appuyer que sur ça, puisque ce n'est pas suffisant. Donc, effectivement, il faut construire de nouvelles centrales. Mais l'État a été extrêmement clair et a dit à EDF et aux autres, vous êtes gentils les gars, vous lancez d'abord Flamanville et on verra après.
Merci Muriel Robin. Votre chronique aura-t-elle intéressé ou inquiété Olivia
Sinon,
Ruiz
faire une petite dépression. C'est comme ça que termine le sketch de Muriel Robin.
Bravo Emmanuel Dutheil. Mais là, vous m'avez salopé dans ma phrase. Bon, tant pis. Est-ce que votre chronique aura plu à Olivia Ruiz? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, comme Olivia Ruiz, elle a appris à se diversifier. Journaliste le jour, la nuit venue, on la retrouve sous le métro aérien de Barbès où elle arrondit ses fins de mois.
30 euros le gramme.
Mais avant, Eva Rock nous dit ce qu'il faut regarder ce soir à la télé ou sur les écrans. J'espère vis-à-vis de mon invité que ça sera le téléfilm de France 2, sinon bonjour la goujaterie. Ce sera juste après Mon corps, mon amour, Olivia Ruiz, doublement sur Europe 1. Mon corps, mon amour, c'était Olivia Ruiz sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'un savoureux pugilat entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent au service de votre culture G, sous l'œil d'un invité arbitre souvent épaté par le niveau de l'émission et surtout, au diable la fausse modestie, par mon talent. Talent protéiforme qui va de la créativité humoristique à la maîtrise des lancements, art difficile dans lequel j'excelle. Avec, on parlera notamment des têtes couronnées qui n'en font justement qu'à leur tête, et de Netflix que vous allez découvrir, là c'était un don à la place d'un queue qui aurait été judicieux, et de Netflix dont vous allez découvrir comment, mais non en fait cette phrase n'a aucun sens dans les deux sens, avec un queue ou avec un don.
Et vous voulez pas essayer don auquel?
Le compte était taquin. Aujourd'hui, c'est Olivia Ruiz qui nous accompagne pour évoquer ce téléfilm dont auquel elle incarne un flic de la BAC surmené. État d'urgence au pluriel, c'est ce soir sur France 2. Une expérience passionnante pour vous, mais pourtant à la base, Olivia, quand vous avez décidé de prendre un agent pour le cinéma, c'était pas forcément pour jouer.
Non, c'était dans l'idée d'écrire. Ouais. Effectivement, j'ai réalisé 2 courts-métrages, j'ai vraiment adoré cet exercice-là, puis j'ai pas mal de petites histoires qui traînent dans des cahiers ou dans des ordis. Donc c'était mon idée première, tout en ayant bien sûr en tête le fait que ça pouvait aussi m'ouvrir des rôles. Mais j'avais oublié à quel point c'était agréable de jouer.
De jouer. Donc vous allez continuer.
Et confortable d'ailleurs. Quand on
confortable
est oui, quand on est patron de 18 gars sur la route, être juste comédien, c'est des vacances fatigantes, mais des vacances quand même.
Est-ce que vous avez le temps de regarder la télé, les séries, tout ça? Vous êtes très...
Je suis très série.
Vous êtes très série.
Ouais. Mais très... tout et son contraire. J'ai adoré Handmaid's Tale, que j'ai toujours pas fini. Et à côté de ça, je suis super fan de Fais pas ci, fais pas ça. J'aime les choses assez sombres aussi, comme Les Revenants. Voilà.
Éclectique. Selon une étude de l'université d'Oxford, Olivia Ruiz, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint devant l'écran d'accueil de Netflix pour savoir ce qu'on va regarder, sans parfois y arriver. Heureusement, il existe désormais 17 minutes de gagné. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Moi, personnellement, je vais regarder
soir,
Olivia Ruiz, donc
ce soir,
sur France 2 à 21h. Après, vous faites ce que vous voulez.
À 21h, effectivement, état d'urgence. Mais je voulais vous parler d'un programme qui arrive demain sur OCS. C'est la 3e et dernière saison d'une série qui s'appelle Les Grands. C'est l'histoire de Hugo, Avril, MJ, Boogie et les autres. Ce sont des lycéens qu'on a connus collégiens dans les 2 premières saisons. Et c'est le quotidien donc, de ces presque bacheliers qui est désormais alors, rythmé par les soirées entre potes, l'alcool, un peu de drogue, les premières voitures, les interrogations sur le futur professionnel, les questions identitaires et le sujet récurrent, le sexe. Évidemment, Emmanuel Dutheil, vous avez tout compris. Il y a beaucoup de questions de sexe, effectivement, notamment entre Kenza et Boogie. Lui, c'est un petit couple.
Il s'appelle vraiment Boogie ?
Oui, il s'appelle Boogie. Enfin, c'est son surnom. Ils sont lycéens tous les deux. Un ado qui est très excité, surtout quand il s'agit de se retrouver dans la voiture de leur copine pour une partie de jambes en l'air.
Ah, mais j'avais pas compris ton plan de revenir chercher un truc. En fait, il n'y a pas de truc.
Mais non, t'es malin, toi.
Oh putain, t'es un génie. On a attendu ça toute la journée. On n'a jamais fait ça dans une voiture.
Non.
Putain, c'est super excitant. Du coup, ça devrait pas durer longtemps.
Ouais, par contre, faut que t'arrives à parler.
Oh, j'ai une idée. Tu vas pas faire comme si t'étais pas d'accord?
Mais je suis d'accord.
Non, mais justement, c'est un jeu.
Mais
Mais pourquoi tu fais ça?
Parce que je suis pas d'accord.
Non, Non, t'as raison, c'est nul.
Alors, ils disent que c'est la première fois qu'ils font ça dans une voiture. Ils sont au lycée, c'est ça?
Oui, ils sont au lycée.
Bon, au lycée, j'avais jamais fait ça tout court. Hein. Mais je suis un peu dégoûté par cette jeunesse qui découvre les choses
de plus en plus tôt. On est en 2019.
Ah oui, bah moi, dans les années 80,
c'était pas pareil. Ils sont dans la voiture.
Non, mais on en parle de ça. C'est ennuyeux. Moi, j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de connaître ma première expérience. Vous savez quel âge j'ai connu ma première expérience?
Vous allez comprendre pourquoi vous avez bien fait de ne pas faire ça dans la voiture. Parce que vous imaginez pas la suite. Ils sont dans la voiture de la copine. Et les copains, eux, ils vont revenir plus vite que prévu pour remonter à bord de la voiture. Et scène un peu gênante pour eux.
Ah, putain! Oh putain de merde!
Putain, je te verrai plus jamais de la même manière.
Oh, on nique pas dans ma voiture, je l'avais dit en plus.
Mais on a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit.
Oui, mais encore un peu.
Alors, j'adore cette série, qui n'est pas sans rappeler par exemple le film de Riyad Sattouf, Les Beaux Gosses, qui était pour les collégiens plutôt, mais Les Grands décrit avec intelligence et réalisme en fait l'univers post-adolescent et pré-adulte. Vous savez, quand l'insouciance disparaît peu à peu pour faire naître des questions plus existentielles et parfois plus pragmatiques sur la vie qu'il reste à construire. Tous les comédiens sont excellents, ils sont servis par de très bons dialogues. Une série française avec de bons dialogues. On félicite. Mais évidemment, ce soir. Mais série. Là, c'est un téléfilm, c'est un unitaire, c'est pas pareil. Scénario réussi aussi. Vous pouvez regarder la troisième saison sans avoir vu les précédents.
Oui, c'est ça.
C'est pas grave. Il n'y a aucun problème de compréhension. Mais par ailleurs, je vous recommande à vous, adultes, de la conseiller à vos ados parce qu'ils vont avoir quelques réponses
comme ça,
à leurs questions existentielles.
Comme ça, ils vont essayer de baiser à l'arrière de la Mégane. Bravo. Super conseil. Merci pour vos conseils.
Petits,
à tous les parents qui
fils.
Nous écoutent. Vous disent merci. Oh mon Dieu. Je ne pensais pas. Mon fils, il a 7 ans. Mais qu'est-ce que vous racontez? 17 minute de gagner. Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, j'ai longtemps cru que c'était Socrate qui disait:
tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
C'était le philosophe américain Clint Eastwood et il avait tort, il aurait dû dire le monde se divise en deux catégories, les types qui sont issus d'une famille de génies et les autres. Portrait de la famille Eastwood où le talent semble héréditaire avec Fred Goetti dans une poignée de secondes.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie de notre invité d'honneur qui prend un malin plaisir à noter les journalistes qui défilent au micro cet après-midi. C'est Olivia Ruiz qui nous accompagne à l'occasion de la diffusion ce soir sur France 2 d'État d'urgence, téléfilm sur le mal-être des policiers dans lequel vous tenez le premier rôle. On continue d'en parler, Olivia, mais d'abord une question. Musicalement, vos influences sont multiples, on le sait. Est-ce que vous aimez le jazz?
J'y connais pas grand-chose, très, très franchement, mais j'y suis sensible. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que je ne mettais pas forcément dans la catégorie jazz. Je peux être assez perturbée par des choses comme le free jazz, oui. ou qui sont peut-être un peu trop savantes pour mes oreilles mal éduquées. Mais par contre, j'ai une énorme sensibilité aux grands crooners et aux grandes crooneuses, voilà.
Eh bien, ici, nous, on adore le jazz. On en est véritablement férus, à tel point qu'avec Eva, dès qu'on peut en injecter dans notre émission, on le fait. Enfin, quand c'est pas trop compliqué par rapport à la playlist établie.
Et si on changeait un des disques pourris pour mettre un très beau truc?
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Armstrong, un morceau de Kim Burroughs ou un petit morceau de Norah Jones?
Ah, mais quand on a une idée en tête, on va jusqu'au bout. Voici justement notre spécialiste jazz Fred Goetti qui nous parle aujourd'hui d'une famille formidable, mais pas sur TF1.
Oui, entre Clint, le cinéaste qui nous a déjà tant donné, et Kyle, le jazzman qui a tant à nous offrir, aujourd'hui, mon cœur balance. D'autant plus que Clint est un fou de jazz et que Kyle a fait l'acteur et composé plusieurs musiques de films. Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons par papa. Ah non, non. Non. Non, 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 non. Le bon, la brute et le truand.
C'est pas lui, quand même.
Non, non, j'adore, mais pas cette fois, s'il vous plaît. Non, aujourd'hui, je voudrais rappeler que l'autre grande passion de monsieur Clint Eastwood, c'est le jazz. Et dès 71, pour son premier film en tant que réalisateur, Un frisson dans la nuit, bingo, ça swing à l'écran. Le titre original d'Un frisson dans la nuit, je ne sais pas si vous le savez, c'est Play Misty for Me.
Je ne le savais
Joue
pas.
Joue Misty pour moi. Et Misty, c'était un tube du pianiste de jazz, Errol Garner.
Mais Frédéric, comment il est tombé amoureux du jazz, Clint Eastwood?
En écoutant du jazz Nouvelle-Orléans, dès sa plus tendre enfance, et puis en découvrant ça. Alors ça, c'est le saxophone de Charlie Parker, l'inventeur du bebop avec Dizzy Gillespie et Thelonious Monk. Oui, Clint Eastwood a vu Charlie Parker sur scène. Alors si en plus on lui avait dit qu'un jour il tournerait son biopic, Bird, je pense qu'il ne l'aurait pas cru. Clint Eastwood a une admiration sans borne et un respect immense pour les musiciens de jazz. Ce qui ne l'empêche pas, entre nous, de se faire un petit plaisir de temps en temps. Tiens, écoutez-le dans « Minuit dans le jardin, du bien et du mal ».
Well, I start reviewing
attitude of doing right.
C'est lui qui chante ?
C'est Clint Eastwood, ça ?
Lui-même ?
Non.
Non, mais que le salaud, il a tous les talents.
Eh ben, je l'ai
pas envie.
C'est
énervant.
Ah, ah oui, c'est
assez
énervant.
Agaçant, oui.
Et si vous le croisez, dites-lui qu'il est talentueux, parce que méfiez-vous quand même, parce que c'est Clint Eastwood.
Je sais, il a la gâchette facile.
Non, mais,
c'est son défaut, d'ailleurs.
Je vous coupe, parce que le jazz pour Clint Eastwood, c'est pas une musique intellectuelle. Non, 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 non. Il la considère plutôt, je cite, deux points, j'ouvre les guillemets, comme un art majeur qui transcende tout concept.
Et alors son fils, Kyle Eastwood, dans tout ça, Frédéric ?
Bah, qu'il, vous vous en doutez, lui, il a grandi dans un milieu où le jazz, évidemment, était très présent. Et le cinéma aussi. Il a d'ailleurs failli faire des études pour devenir réalisateur.
Et alors pourquoi jazzman, finalement ?
Ah bah parce qu'à la maison, il y avait toujours un 10 sur la platine, et 9 fois sur 10, évidemment, c'était un 10 de jazz. Et à 14 ans, oui, à 14 ans, il a joué dans un film de son père, évidemment, Honky Tonk Man, magnifique film. Il a dû apprendre la guitare pour son rôle. Résultat, il a attrapé le virus de la musique. Mais il a rapidement délaissé la guitare pour la contrebasse, puis il s'est initié au jazz, lentement, mais sûrement, histoire surtout d'affirmer sa propre personnalité artistique. Alors, de quoi est-il plus fier, Kyle Eastwood, quand il revient sur sa déjà longue carrière commencée il y a plus de 20 ans ? Eh bien, de ce qu'il a fait récemment, évidemment, comme tous les jazzmen. Et devinez comment s'appelle son nouveau disque ? Cinématique. Tiens, tiens. Bon, avec son quintet, il reprend ses musiques de films préférées. Faye Dunaway, Steve McQueen,
Bullitt.
Une course-poursuite,
ah oui.
Des pneus qui crissent, une Ford Mustang.
Ben c'est toute ma jeunesse.
Et voilà, Bullitt. Il est très fort. On écoute un peu le groove derrière. Les histoires de famille entre les acteurs célèbres et leur progéniture finissent mal, en général. Mais pas chez les Eastwood. En tout cas, pas entre Clint et Kyle, qui sur l'écran noir de leur nuit blanche se sont toujours fait du cinéma, mais souvent sur un air de jazz. Alors, dernier exemple, Gran Torino, une chanson de Kyle Eastwood, écrite pour le film de Clint Eastwood du même nom, avec, s'il vous plaît, et c'est pour vous Olivia, Yul Koltman, qui chante.
Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long.
Ça, c'est sur la BO de Gran Torino ?
Exactement, monsieur. Non, 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 je dis des bêtises, pardon.
Ah, vous dites des bêtises parce que ça m'avait
échappé. C'est dans la BO de Gran Torino, c'est l'émotion, pardon. Oui. Et c'est dans le nouveau disque.
C'est dans le nouveau
Kyle
disque,
Eastwood.
D'accord. Ah ben,
oui.
ça, vous allez me l'offrir, Fred Wade.
Eh ben, c'est prévu, il est dans mon sac.
Oui, comme ça,
il
vous
était
pourrez
pour
marquer.
Eva, mais tant pis.
Oui, voilà, tant pis, mais Eva,
moi,
pas, il n'a pas
moi.
De point, tandis que moi, je donne un point dans cette émission. Donc, choisissez bien à qui vous faites votre cadeau.
Je l'ai en vinyle.
Elle incarne une fan flic qui va vous émouvoir ce soir sur France 2 dans État d'urgence. Olivia Ruiz passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
À suivre, la dernière fois que pour faire plaisir à vos proches, vous avez tenté de faire la cuisine, ça s'est soldé par une intoxication alimentaire carabinée.
Je suis désolée, maman.
Changez de méthode. Écoutez, on en
voilà.
Fait tomber le plateau.
On a fait tomber
Qu'est-ce
le
qui
studio.
S'est passé
on
Oui,
pas.
Le studio oui, oui. Part en sucette. Oui. Écoutez, Delice in Extremis, les amis, la recette de dernière minute qui vous sauve la mise tous les jours à 6h moins le quart.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, la compétition continue entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 selon les manifestants, entre des journalistes tout court selon la police. Une émission à des années-lumière des clichés grotesques qu'on a parfois sur le showbiz. Ce showbiz où tout le monde se fait la bise, disait Doc Gynéco. Ce showbiz où on découvre qu'animateur et invité qui se vouvoient à l'antenne se tutoient en fait hors antenne et son copain comme cochon et fréquentent les mêmes personnes. Pas de ça chez moi, même si bon, hier, Christophe Onodibio, oui c'est vrai, on avait une connaissance commune. Comment va ce bon vieux... Jérôme Béglé.
Bah bien, je vais le voir tout à l'heure. Vous avez quelque chose à lui dire ?
Bon, un bisou sur la fesse.
Un bisou sur la fesse ? Ah oui, là, c'est...
Ah, le showbiz, quand même hein. Bref, aujourd'hui, je le jure, aujourd'hui, je le jure, je ne connais pas Olivia Ruiz dans la vie, mais je ne demande qu'à. Olivia, on parlait
alors,
jazz.
Alors, on va arriver au bisou sur la fesse, là ? Vous êtes en train de m'amener ça discrètement, Mathieu ?
Vous avez vu comme c'est finement
ça
amené.
Ça ne va pas passer.
C'est
ça ne va pas passer.
Un gentleman suisse, c'est comme ça que je me définis.
Oh,
on
oui.
Parlait, oui. On parlait de jazz tout à l'heure, on a envie d'entendre Olivia Ruiz là-dessus. Tout à l'heure, vous nous disiez hors antenne que vous n'y connaissez rien en jazz. Et en fait, pendant la pub, on a découvert que vous connaissez très très bien le jazz. Vous trouvez que c'est injustement une musique vue comme un télo alors qu'elle ne devrait pas être présentée comme ça.
Mais oui, c'est vrai. C'est ce dont on discutait avec Frédéric. Et puis, ça me semble essentiel, effectivement, de rappeler que ces chansons de jazz sont populaires aussi. Elles ne sont pas juste un alignement de notes savantes, incompréhensibles.
Il y a des gens qui chantent My Funny Valentine chez vous, d'ailleurs, je crois.
Moi.
non, mais
bien sûr. Et puis même, le jazz est partout. Chez un Loyal Garner, chez... Voilà, il se balade aussi beaucoup dans le rap. Et effectivement, c'est dommage juste qu'on considère parfois qu'on n'est pas assez intelligent pour écouter du jazz. Et effectivement, le jazz n'est pas que dans des choses très complexes et difficiles d'accès. Il est partout. Et Sinatra l'a prouvé.
Et Louis Armstrong, et Chet Baker, et la liste est longue.
On va vous laisser tous les deux. Ce soir, elle joue dans État d'urgence, un téléfilm sur France 2. Vous incarnez une flic de la BAC en pleine descente aux enfers. Avis au scénariste qui vous proposerait des rôles. D'après ce que j'ai lu, vous privilégiez les rôles qui sont loin de ce que vous êtes dans la vie. Par exemple, un rôle, incarner le rôle d'une chanteuse, ça ne vous intéresserait pas. Vous cherchez des rôles, vous cherchez à découvrir d'autres milieux.
Ouais. Ben moi, c'est vrai que ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Ce qui me plaît et ce qui me met l'esprit en vacances quand je tourne, c'est de pas être moi. Tout d'un coup, les préoccupations sont plus les nôtres, elles deviennent celles du personnage. C'est très reposant pour l'esprit, même quand on joue quelqu'un d'aussi sous tension que Justine. Et je suis pas sûre que la chanteuse ait autant de matière à offrir pour jouer que plein d'autres.
Alors Justine, c'est un rôle difficile, hein, c'est quand même un rôle dur, mais on sent en discutant avec vous que vous avez pris beaucoup de plaisir sur le tournage. Sur vos envies futures d'actrice, vous dites « J'ai passé 17 ans dans un tunnel à ne faire que bosser, parfois avec des gens un peu dépassionnés, c'est fini, je ne sais pas si c'est l'âge ou la maternité, mais je n'ai envie de faire que des trucs avec des gens cool. » Ça m'a été surpris un peu cette phrase, des gens dépassionnés dans le milieu de la musique, il y en a beaucoup.
Oui, moi je suis une grande travailleuse et une grande passionnée. Et j'arrive plus à trouver comme... Oh là là, l'ancien combattant. comme à mes débuts, ouais. Des gens qui ont cette espèce d'énergie incroyable, de créativité. Je trouve que la prise de risque se perd.
Mais c'est une prise de risque même à votre niveau, quand on est une star comme vous, on vous l'impose. La maison de disque vous dit, là, il ne faut pas prendre de risque, on va faire plutôt ça.
Non. Moi j'ai toujours dit... Je vous embêterai pas sur les conditions financières, mais ne venez pas m'embêter sur l'artistique. Donc non, même les patrons de maisons de disques, il y en a un notamment qui me disait, je me rappelle, sur La Femme Chocolat, ce titre, tu ne le mettras pas, il est horrible, machin. Première date à l'Olympia de la tournée, évidemment, je lui dédie ce morceau avec un large sourire. Et là, quand même, battu, parce que toute la salle chantait le refrain d'une chanson d'album, qui n'était pas sorti en single, ni rien. Donc l'indépendance de pas avoir à défendre un support, mais d'être simplement en tournée, effectivement, c'est une alternative qui me permet de faire les choses en totale indépendance et du coup avec que des gens passionnés que je choisis, et cool, et sympa, et humain.
Pour l'instant, vous la découvrez dès ce soir sur France 2 à 21h dans État d'urgence, un téléfilm sur le mal-être policier aujourd'hui en France. La comédienne Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, l'automne est là, les températures sont en chute libre. Quoi de mieux pour se réchauffer le cœur et le corps qu'un bon moelleux poire chocolat?
Basil Boli.
Oui, non, évidemment, chacun ses fantasmes, Emmanuel Duteil, mais je me suis dit que pour une majorité d'auditeurs, le moelleux poire chocolat serait plus parlant. Comment le réussir? Olivier Poult, notre expert en gastronomie de dernière minute, arrive juste après Imani. Hey Little Sister sur Europe 1. Hey Little Sister, c'était Imani sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'enquête sur le nucléaire, d'éclairage sur le jazz et de recettes de moelleux. Le poire chocolat, le tout nappé d'une couche d'humour extra fin. Grâce aux interventions de la truculente Eva Rock, la Blanche Gardin du 06, un talent hors norme qui nous surprend toujours. Juste après, une chanson de saison. Octobre, Francis Cabrel sur Europe.
Et donc à 2 jours près, on était mal, hein, parce que c'est bientôt novembre.
Ah, c'est bon de rire. Maintenant que nous avons pris soin de vos zygomatiques, manie magistralement, prenons soin de votre bidou. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Olivier. Bonjour tout le monde.
Délice in extremis, c'est le rendez-vous incontournable des étourdis qui oublient toujours de passer faire les courses. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange, Olivier?
Bien, avant de vous donner la recette, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis ravi d'avoir la femme chocolat à côté de moi. Vous imaginez quel plaisir.
C'est votre rêve qui se complète.
Pour l'homme côte de bœuf, c'est assez magique. Et je voulais lui proposer un duo, peut-être, éventuellement.
Allez, ça serait bon.
Femme chocolat, homme côte de bœuf.
Oui, enfin, si vous l'avez déjà entendu chanter. Les auditeurs d'Europe 1 l'ont déjà entendu chanter.
Je pensais à un duo en cuisine.
Ah, un duo en cuisine, ça. Par contre, il est bon.
Un piano à quatre mains, mais un piano culinaire.
Oui, j'ai un piano.
Vous cuisinez bien, Olivia Ruiz?
Bien, ça c'est ceux qui dégustent qui peuvent en parler, mais en tout cas j'adore ça, ouais.
Alors vous allez voir,
est-ce qu'un
pas
petit
mauvais.
Fondant poire chocolat, ça vous tente?
Carrément.
Bon, alors c'est parti pour le fondant poire chocolat. Très facile, pratiquement inratable. Il y a juste un petit point qui est un peu
vous
difficile,
me dites ça à
chaque
fois, mais
on va en reparler, c'est la cuisson. Mais non, là vous ne pouvez pas le rater, franchement. Pour 6 personnes, 200 grammes de beau chocolat, un chocolat noir de couverture, 125 grammes de sucre, 2 œufs, 125 grammes de beurre et 3 poires. Des poires, on est en pleine saison, une belle poire conférence.
Des comices.
Comices, c'est conférences. C'est comme vous voulez. Si ça vous fait plaisir, on prendra des comices, Mathieu. Pas de problème.
Moi, ça me fait plaisir.
Voilà.
Les auditeurs me suivront.
Alors, donc, pendant que vous allez éplucher les poires.
L'engagement sur les poires. C'est fou. Hein.
Vous avez vu, il y a 2-3 trucs comme ça, le nucléaire, les poires. Moi, je m'engage.
La comice, quoi. La comice. Donc, pendant que vous allez éplucher les poires et les couper en petits morceaux, moi, je vais faire fondre le beurre. Je vais rajouter le chocolat. Je vais faire fondre tout ça tranquillement. Olivia pourra mélanger les œufs avec le sucre. Ensuite, quand le chocolat est fondu, on laisse légèrement refroidir. On versera dessus les œufs et le sucre, mais pas tout de suite, hein, pour pas que les œufs, évidemment, cuisent et coagulent. On rajoute la farine, les petits morceaux de poire que vous nous aurez aimablement préparés. On enlève la peau de la poire. Ouais. Et alors, petite magic touch, ça c'est mon truc, mon secret, je vais vous le livrer, une petite pincée de fleur de sel.
Fleur de sel
et chocolat, c'est remarquable.
Oui. C'est vrai.
Ça va donner un peps extraordinaire. On met ça dans des moules qu'on a beurrés, dans le four, et c'est là qu'on est très précis. 15 minutes, pas une de plus, pas une de moins, à 180 degrés, pour que le cœur reste moelleux, bien sûr.
Chaleur tournante?
Chaleur tournante éventuellement, et on sert immédiatement. Voilà, c'est inratable. Je pense en tout cas que ce week-end, ce long week-end qui arrive, vous allez pouvoir vous y mettre.
Oui, moi je vais vous inviter chez moi, ça ira plus vite.
Bah,
comme ça,
je sais encore. Mais on ira chez Olivia pour faire un 4 ans.
Ouais,
oui,
d'accord.
On s'invite.
Oui, elle a peut-être quelque chose d'autre à faire, mais...
Tout à fait, les 4 ans de mon fils, il m'a demandé un truc un peu plus élaboré qu'un fondant au chocolat. Ouais. Tous les ans, c'est la
mais
mission.
Ans,
c'est vrai.
Il choisit.
Parti, qu'est-ce qu'il vous a demandé?
Alors là, il veut une véritable chantilly. Il veut un gâteau avec plusieurs couches, avec des fruits. Donc, poire, ananas, chocolat, framboise. J'ai dit que c'était pas de saison. Il m'a dit, mais il y en a des bio surgelés. Il a réponse à tout.
Il a 4 ans, on le rappelle.
Voilà, donc voilà. Je sais pas sera le résultat de ce gâteau. Cette année, la commande est un peu plus folle que d'habitude.
Olivier, vous intervenez à domicile aussi.
Bien sûr,
en cas
on va venir filer un petit coup de main. On sera là sur les coups de 7h, 7h30.
Eh ben, nickel.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Elle, vous la retrouvez ce soir à 21h sur France 2 dans État d'urgence, un téléfilm sur le mal-être policier en France. Olivia Ruiz passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, on discute. Mais comme disait le raffiné Clint Eastwood dont nous parlions tout à l'heure,
je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche, tas de con.
Dans une poignée de secondes, le moment de vérité, on va savoir qui a été élu chroniqueur du jour. A tout de suite pour la grande finale avec nos 4 journalistes, Olivia Ruiz.
Et la présence de Barbara Streisand.
Oui, peut-être, ça on négocie encore, on est pas sûr.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Mes chers auditeurs, le grand moment est arrivé, je vous l'avais promis, elle est là. Madame Barbara Streisand a affrété un jet, elle arrive de Los Angeles car, je cite, elle ne pouvait pas ne pas être là pour la finale de l'équipe est sauvage.
C'est trop mignon.
Oui, Anne, c'est sympa de sa part, tout va bien Barbara? Oui, doucement quand même, Barbara. Mais c'est vrai que les yeux du monde entier sont rivés sur nous au moment de révéler le nom de celui ou celle qui a été élu chroniqueur du jour. Anne Le Gall, Anis Mbida, Emmanuel Lutaï ou Fred Goetti. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, quand on a fait le vote ce matin sur Twitter, on s'est dit Anissé va gagner parce que le titre
parce
de sa chronique, c'était...
Parce qu'Anissé gagne toujours, c'est mathématique.
Et puis c'était trier vos spermatozoïdes, donc on s'est dit voilà. Et bien, c'est Anne Le Gall avec le recyclage qui gagne les 2 points du public.
J'ai gagné sur les spermatozoïdes.
J'ai gagné sur les spermatozoïdes. Belle déclaration d'Anne Le Gall. Moment de sa victoire. 2 points pour Anne Le Gall. Pour ma part, j'attribue mon point. Attention, aujourd'hui... à Emmanuel Dutheil, qui a changé d'avis sur le nucléaire. Et ça, j'aime quand on change d'avis sur le nucléaire.
Un je point reste dixième quand même.
Pour vous, vous restez, oui. Non, je ne vous dis pas combien vous êtes, ça va vous déprimer. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Olivia Ruiz, 4 contrats actuellement à durée indéterminée, mais peut-être bientôt à durée très déterminée, sont entre vos mains. Votre voix, je le rappelle, compte triple. qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour ?
En totale partialité, je donne mon point à la musique, forcément. Frédéric qui arrive à maintenir un média aussi extraordinaire que Jazz Mag par les temps qui courent et à merci, défendre Olivier. Des artistes si peu connus, je donne mes points à Frédéric.
Fred Coetti qui remporte pour sa première participation les 3 points de l'invité.
Je suis en chocolat et je fonds.
C'est magnifique. Et il a le mot de la fin. C'était la 48e journée de l'équipe sauvage. On remercie encore Olivia Ruiz que vous retrouvez ce soir à 21h sur France 2. Merci à vous vraiment. Ce soir, on vous retrouve donc en femme flic dans État d'urgence à 21h sur France 2. Et merci également à tous mes journalistes, Eva Roque, Anne Le Gall, Anissa Mbida, Emmanuel Dutheil, Frédéric Guatti. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Mathieu. Toujours agréable de se détendre avec vous tout l'après-midi. On vous retrouve à 16h. Demain, vous recevrez le romancier Maxime Chattam. À demain.